Astronaut Podcast. Palmis Production. Velvet Cat. Francophonie, vous ne glaubez pas.
Mesdames, messieurs, bonjour, Kwe. Écoutez, en ce début d'année, janvier 2024, eh bien, nous recevons un invité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissez pas, je peux vous dire, c'est bien parce que vous n'êtes pas québécois ou québécoise ou vous n'êtes jamais venu au Canada. Il est un enfant chéri de la belle province. J'ai envie de dire, comme ça devient coutume à Coconut Podcast, il est un enfant prodige du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un bleuat, comme on aime bien le dire, par chez eux. Messieurs, dames, vous l'avez connu, eh bien là, on peut le dire, foulant les scènes des grands théâtres, salles du Québec. Ah ben, tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. En le connaissant, Danny Vervaine, le personnage mythique, par la suite, on le voyait à « C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud » avec Norman Brathwaite. Et plus tardivement, on va le suivre pendant près de 16-17 années à « Tout le monde en parle ». Messieurs, dames, c'est avec une immense joie que nous recevons cette vedette plus grande que nature. Messieurs, dames, aujourd'hui, il se présente comme documentariste, oui. Accueillons à Coconut Podcast, j'en crois pas mes yeux. Nous recevons à Coconut Podcast, je dis bien, Danny Turcotte.
Je me
mets
comme ça. Ça
fait
l'air,
je
suis en train de lever de terre.
Tu lèves-tu juste de
terre? Ben merci, quelle belle présentation.
Écoute, Danny Turcotte, enfant chéri du Québec.
Enfant chéri du Québec.
Ben là, écoute, c'est la diversité, m'a dire, de Laval-Est, Saint-François, Montréal-Nord, Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, Côte-des-Neiges, Villeray, ce Québec divers qui t'a toujours suivi à la télévision, et aujourd'hui, tu nous fais cette fleur d'être avec nous.
Ça me fait tellement plaisir d'être ici avec toi, puis ton enthousiasme me transporte, honnêtement.
Ben, Danny, merci d'être avec nous. Écoute, ne pas te poser la question comme on le fait si bien avec nos invités. Danny Turcotte, comment ça va?
Ben, ça va très bien. C'est un hiver que j'aime bien, je fais beaucoup de sport, ouais. Je m'amuse, je fais du ski de fond. Je suis un peu inquiet des hivers, par exemple, qui se transforment pas mal.
Ouais, le changement climatique.
Un peu bipolaire. Ouais.
Yo-yo, comme on dit.
En yo-yo, ça passe, ouais. Ça revient. Mm-hmm. Mais ça va bien, j'ai plein de beaux projets agréables que j'aime mener. Okay. Je suis en train d'écrire, ça c'est ce que j'aime le plus faire présentement.
Bon, tu me prépares un livre, des pièces de théâtre, un stand-up comique?
Non, ça c'est fini. mais j'ai écrit un livre qui raconte mon parcours.
Okay,
et ça, c'est écrit. C'est fait. Là, je suis en correction.
Okay.
Et j'ai commencé à écrire un roman.
Wow.
Et ça me branche beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à inventer des personnages, okay. À leur donner des défauts épouvantables. Okay. C'est un peu comme jouer à Dieu.
Bon. Monsieur fait et défait.
Oui,
voilà.
Et c'est ça la correction. Le plaisir d'être seul, tranquille à la maison, alors que j'ai passé ma vie entouré de monde. Ça me fait vraiment du bien. J'aime cet exercice-là. Je trouve ça stimulant.
Alors, Danny Turcotte, là maintenant, on va apprendre à te connaître. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Quand on parle du Saguenay,
oui.
On parle évidemment d'Arvida. Chicoute.
Jonquière. Moi, je viens de Jonquière. Une ville de 60 000 habitants.
La Saint-Dominique, tu
connais? La Saint-Dominique, c'est la rue principale.
Ouais, avec les bars.
J'ai étudié là, moi, en art et technologie des médias au cégep de Jonquière.
C'est incroyable. C'est comme un programme fort, je pense.
C'est le seul.
PA, y a-tu, monsieur?
Stanley PA, mon ami d'enfance, qui était le seul haïtien de Jonquière.
Non.
Avec sa famille et son oncle.
Okay.
C'était deux familles d'haïtiens. c'était ça la diversité à Jonquière à l'époque. Il n'y avait pas personne, il y avait des Italiens un peu,
okay.
Mais c'était principalement blanc québécois. C'était vraiment ça que j'ai connu quand j'étais jeune. Le Québec s'est transformé et c'est tant mieux.
Excellent. Donc,
et le Saguenay s'est transformé aussi.
Beaucoup.
Les enfants, il y a plein de jeunes un peu partout.
La diversité, moi, ouais, ben, énormément. Le cégep de Jonquière avec ce programme-là, au niveau des multimédias, nouvelles technologies.
Oui.
Ils ont fait leur nom là, dans la francophonie.
Il y a aussi l'été un cours de français, d'immersion française. Okay. C'est des gens d'un peu partout qui viennent apprendre le français au Québec. Oh, il y a beaucoup de politiciens qui sont allés à
Jonquière pour apprendre le français. Ouais. OK, excellent. On ne savait pas celle-là. Là, maintenant, c'est un peu le parcours de tout Québécois. À un certain moment, ils veulent aller vivre le trip en ville, dans un milieu urbain. Qu'est-ce qui va te faire choisir Montréal plus que la ville de Québec? C'est comme le premier arrêt d'un Saguenayen, d'un citoyen du lac. Ils arrêtent à Québec. Puis après, peut-être s'ils sont assez courageux, ils rentrent à Montréal.
Et nous, on avait formé un groupe d'humour qui s'appelle Groupe Sanguin. On a commencé effectivement par aller jouer à Québec après le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait joué partout où il y avait des toits. On a joué dans tous les édifices possibles au Saguenay. Fait qu'on a un peu plafonné éventuellement. Fait qu'on est allé jouer à Québec pendant peut-être une couple de mois. Et là, on a fait venir des producteurs de Montréal. Et c'est là qu'on a pris la décision de déménager dans la grande ville, parce que pour pratiquer ce métier-là, c'est sûr que c'est plus facile dans une plus grande ville. Les médias sont ici, il y a des émissions de télé qui vont t'inviter pour faire la promotion de ton spectacle. Fait que c'est évident que c'était la chose à faire pour le groupe Sanguin. Ensuite, après le groupe Sanguin, on a formé l'Évêque
Tuteur,
qui était mon ami Dominique Lévesque, qui est décédé.
Ça a touché le Québec, mais on sent que ça t'avait touché personnellement. C'était quasiment, tu sais, un vieux couple, comme on dit, ben oui, là, c'est une amitié de longue date. Là.
C'était d'abord mon professeur de théâtre
au Cégep,
Dominique Lévesque. Lui, il était plus vieux que nous, mais c'est lui qui était le fondateur du groupe Sanguin. C'était lui la bougie d'allumage. C'est lui notre mentor. Mm-hmm. C'est lui qui nous avait un peu enseigné le métier. Puis j'ai travaillé avec lui pendant 30 ans, presque à chaque jour.
T'es fidèle, toi, dans tes relations professionnelles. Oui. C'est quand même quelque chose d'incroyable.
C'est que ça se garde. Non, mais avec Dominique, ben, on a été ensemble pendant toutes ces années-là. On a fait 2000 spectacles ensemble. Puis là, tout à coup, il a 63 ans, il part en voyage dans un pays d'Amérique du Sud que j'oublie là pour l'instant. Mais il a fait de la plongée sous-marine et il s'est noyé. Il a fait une crise de cœur. Il est décédé à 63 ans. Ça m'a complètement bouleversé. Ça m'a arraché un morceau de moi-même. Parce que c'était comme devenu mon frère au fil des années. Ça fait qu'on habitait un au-dessus de l'autre. C'était mon voisin depuis tout ce temps-là. On avait acheté un édifice ensemble. J'étais le parrain de son fils.
OK, donc c'était la famille, là.
C'était mon frère. Ah, c'était pas juste mon ami, c'était mon frère d'armes, parce qu'on était allé à la guerre ensemble en plus. Fait que quand il est mort, ça m'a vraiment bouleversé énormément. Là, ça fait 7 ans. Et j'y pense encore à tous les jours. À chaque fois, je vois quelqu'un sur la rue avec un manteau orange.
J'ai une pensée. C'est
parce que Dominique, il avait ce manteau-là depuis très longtemps. Il faisait du vélo l'hiver. C'était un des premiers à
faire. OK, donc faisait du vélo ensemble.
Pas moi, mais lui, il était vraiment maniaque. Il faisait du vélo l'hiver.
T'es un précurseur de madame la mairesse Valérie Plante.
Il aurait pu être le frère de Valérie.
Ouais, c'est ça. Tes parents, lorsqu'ils voient que ton rêve, un peu dans quoi tu t'étais investi étant tout jeune, puis il voit que tu t'en vas vers Montréal, Québec, il y a des producteurs qui commencent à t'approcher. Quelle a été la réaction de ta famille, Danny Turcotte?
Extrêmement ouverte d'esprit, autant ma mère que mon père. C'était
Mais là, fils, tu vois pas d'argent là-dedans. Ben,
Jamais. On m'a toujours beaucoup encouragé à continuer. Puis ça a commencé très jeune, puis on a commencé très vite à avoir des salaires. Parce qu'au début, on avait notre théâtre d'été à Jonquière, on était 6 sur 5, on a réussi à avoir un certain salaire, puis on se payait des thèmes de chômage avec notre compagnie. On se faisait c'était légal, on avait le droit. Fait qu'on travaillait sur l'écriture pendant qu'on était au chômage. C'était comme une façon indirecte d'aller chercher une subvention, mais c'était notre assurance chômage. Donc, mes parents disaient, bon, ils réussissent à gagner leur vie. Il est heureux, il est bien, c'est ça qui est important. Puis ma mère avait un côté artistique très prononcé. Donc pour elle, c'était un peu réaliser le rêve qu'elle n'a pas réalisé.
Ah,
Ça l'a rendu. Ça
l'a rendu. C'est assez fier.
Ça l'a rendu heureuse de savoir que j'ai réussi à le faire dans sa
vie. As-tu nous voir quelques-uns de tes shows?
Beaucoup. Mon père aussi. Je me rappelle, mon père, il a un rire, ben, il est décédé, là. Il y avait un rire très particulier.
Ben, d'où tu tiens ce rire, là?
Non, dans une salle de 1000 personnes, je pouvais entendre son rire. Parce que mon père, il faisait un sifflet avec sa bouche, il faisait comme. Il y avait 1000 personnes, et je réussissais à dire ça va être.
C'est un sifflet. Oh, ben. Quand il envoyait un passé dans la rue. I'm not a fan. Tu sais, genre. Excellent. On voit que tes parents t'ont vraiment supporté.
Oui.
Tu nous as parlé de ta relation avec l'évêque. C'est assez intéressant, le respect que tu as pour les aînés. Tu disais, il était déjà d'un certain âge plus vieux que moi, mais tu prenais soin, ça a l'air qu'il y avait une relation, ce que vous vous accompagniez, et tout récemment, le dernier placard, Vieillir gay, on sent vraiment tout ton intérêt pour cette cause qui touche nos aînés au Québec, issus d'orientation donnée.
Il faut dire d'abord que ma diversité à moi, si je suis invité ici aujourd'hui, parce que je suis un membre de la communauté
LGBTQ+,
ouais. Je suis un homosexuel.
Bon, ouais.
Je m'en suis jamais caché. Et j'ai fait un documentaire sur les personnes vieillissantes LGBT qui vont dans des résidences et qui, tout à coup, sont parfois obligés de retourner dans le placard parce que les gens qui les reçoivent n'ont pas eu nécessairement le même cheminement qu'eux. Donc, ils se retrouvent dans des milieux plus hostiles. Puis ces générations-là ont tendance à se refermer
sur eux-mêmes
immédiatement parce qu'ils ont l'habitude de rentrer dans le placard, sortir du placard, rentrer du placard, sortir du placard. Ils font ça à la journée longue.
Développer des techniques un peu...
Pour passer inaperçu le plus possible pour pas se faire...
Surtout de ces générations-là.
Exactement. Toutes les micro-agressions au quotidien, ils les subissent, soit par le personnel, par les autres résidents qui vont faire des commentaires sur cette personne-là qui est seule dans son coin, qui est homosexuelle et qui n'ose pas être elle-même. Tout ça, j'ai fait un documentaire là-dessus.
Poignant, là!
J'ai trouvé ça super intéressant à faire. J'ai rencontré des gens fascinants.
Mireille!
Qui ont ouvert le chemin pour
moi. Oui, McCutcheon, entre autres.
McCutcheon, c'est mon mentor à ce niveau-là. C'était le fondateur de Gay Écoute, qui est maintenant Interlink, une ligne ouverte.
Le financement avait été difficile, là, les dernières années.
Tu peux appeler là 24 heures par jour pour les communautés LGBTQ, des gens qui ont des problèmes d'acceptation, des gens qui ont des problèmes d'estime de soi. C'est vraiment un beau service. Puis ça, c'est Laurent McCutcheon qui a fondé ça. Il est décédé aussi. Tous mes mentors sont morts. Ça va bien, mon enfant.
Ben, écoute, c'est quand même tout en ton honneur de...
Une anecdote avec Laurent McCutcheon, c'est que je devais l'interviewer pour mon documentaire, Le Dernier Placard, puis il y avait un cancer du poumon. Et là, il m'a dit, dépêche-toi. J'avais réservé une équipe technique pour le lundi. Le vendredi, il m'écrit sur Facebook, je veux te parler. Là, je lui ai téléphoné, il dit, écoute, je ne peux pas faire mon entrevue lundi parce que je vais mourir dans 2 heures. Parce qu'il avait demandé l'aide médicale à mourir, il n'était plus capable, il avait de la misère à respirer, il n'était pas bien, il souffrait. Et il a pris la peine
de m'appeler
dans sa dernière heure de vie pour me dire qu'il ne pourrait pas faire l'entrevue. Moi, j'appelle ça avoir le sens du devoir.
Puis ils ont lutté toute leur vie, là.
Oui.
Différentes causes. Le mariage pour tous.
Oui, il a lutté pour ça aussi. Ouais, il a lutté même pour l'aide médicale à mourir, donc il a eu...
La lutte contre le VIH également, il était de toutes ces luttes-là. Puis tu nous fais découvrir tout plein de personnages qui ont œuvré au Québec pour la lutte des droits des personnes LGBTQ+. Je pense à Madame Mireille dans le documentaire, là.
C'est une femme lesbienne de Joliette qui a formé des groupes d'entraide pour se regrouper, se jaser et rencontrer d'autres femmes lesbiennes. En tout cas, c'était fascinant, mais là, je travaille sur un nouveau.
Non!
Oui!
Déjà!
Oui, mais là, je vais du côté de la jeunesse. Je vais complètement à l'autre.
OK, OK.
Là, ça s'appelle, pour l'instant, La soupe à l'alphabet.
LGBTQ+, excellent. Puis les lettres qui se rajoutent dans ça.
Exactement. Et là, c'est pour aller voir qu'est-ce qui se passe, justement, dans les écoles, dans les cégeps. Où est-ce qu'on en est avec cette ouverture-là qui explose de partout sur les genres, sur les façons d'être? Est-ce que c'est toujours positif? Est-ce qu'on cherche à comprendre tout le monde? qu'est-ce qui se passe. C'est ça que j'aimerais faire maintenant.
Avec ce travail social là, que tu es en train de faire, qui est plus que palpable.
L'autre chose qui peut être intéressante, c'est les communautés culturelles.
Ben,
les personnes LGBTQ dans les communautés culturelles, c'est pas toujours évident. Là aussi, il y a un travail.
Ben, on sent qu'il y a... Tu nous fais poindre déjà dans cette direction, dans ton documentaire Le Dernier Placard, on voit certaines prises d'images qui montrent des gens issus des communautés afro, par exemple, qui célèbrent lors de la parade de la fierté.
Oui.
Puis on dit, on voit déjà que tu t'en vas dans une direction de la sorte.
Ben, ça pourrait être un sujet fort intéressant.
Parce que lorsque l'équipe de Coconut regardait Le Dernier Placard, on s'est dit, cette réalité... est comme présente, il y a Stanley Payan qui reçoit.
L'équipe de Coconut, c'est toi.
Moi, ben c'est ça. Ma scotte, il a dit la même affaire. Tu sais, c'est moi, il y a Ishmael Meuse, la Côte des Neiges, là, tu sais, qui nous donne son poumet à distance. Mais en effet, on constate que cette question va se poser également dans pas mal de communautés culturelles Québec. Là. Donc, de voir que Radio-Canada est embarqué dans ton projet, l'équipe de Marie-France Bazot,
oui.
Bazot Productions, avoir des réalisateurs comme La Lumière, entre autres.
C'est bon, t'attrapes, tu te mets pas de notes.
C'était
meilleur que moi.
Ben, écoute, tu nous as tracé la route, hein. Quand tu faisais tes stand-up, t'avais pas de notes.
Non, non, allait... mais je répétais toujours la même chose tous les soirs. Mais toi, c'est une
entrevue
différente.
Oui, 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 quand même.
T'es meilleur que Guillaume
Lepage,
t'as pas de carton.
J'en ai pas. J'ai pas d'équipe pour m'en faire.
Voilà.
Donc,
réellement... C'est les gens qui ont embarqué.
Ouais, c'est quand même incroyable.
C'est pas sexy comme sujet.
Non.
Pour un télédiffuseur.
D'avoir Ariane Moffat qui fait la musique thème, elle-même issue des communautés LGBT+.
Elle a embarqué tout de suite.
Tout de suite?
Immédiatement, quand je lui ai téléphoné, elle a dit...
Ta notoriété a-tu fait en sorte que les gens...
C'est sûr que c'est le fait que je sois connu, ça m'a aidé à faire débloquer les fonds, parce que pour Radio-Canada, c'est vraiment une œuvre sociale.
Voilà.
On parle pas d'une mission commerciale. On parle vraiment de faire œuvre utile. Puis c'est pour tout le monde qui est impliqué dans ce projet-là. Autant
ça va être la nouvelle mission de Radio-Can, parce qu'ils disent qu'ils sont en train de redéfinir la mission de Radio-Canada. Est-ce que Radio-Canada
va... Il me semble qu'ils redéfinissent ça depuis le début.
Pour 5-10 ans, là, ouais, c'est
ben,
ça.
C'est un média qui bouge, qui est en mouvement. La télévision bouge beaucoup. Les choses changent. Les plateformes font en sorte que la compétition est forte. Donc, c'est sûr que tout est à redéfinir. Encore une fois, c'est un secteur qui se redéfinit à chaque 3-4 ans pour tout refaire.
As-tu peur de vieillir, Danny?
Ben, c'est pas mal déjà fait.
Ben là, arrête, là!
Non, non. Non, non, honnêtement, non. J'ai pas peur de vieillir.
Vieillir seul?
Vieillir seul, non.
Okay,
mais vieillir seul avec une bonne qualité de vie, oui, ça peut m'inquiéter. Je pense que les gouvernements vont avoir à travailler fort pour faire des services à domicile, conserver les gens chez eux le plus possible. C'est là qu'il va falloir qu'ils s'orientent, chanter, parce que tout ce qui s'appelle résidence et tout ça, je suis pas sûr si c'est bon pour tout le monde, pas tout le monde qui aime ça. Pour ceux qui aiment ça, tant mieux. Mais comme pour les personnes gays, lesbiennes, trans, c'est pas nécessairement des milieux qui sont nécessairement accueillants. Bon, mais ils travaillent. Le documentaire a fait du chemin. Ça fait travailler les différents organismes. Oui, il a été diffusé dans toutes les résidences.
Hein? Quoi, 1200 résidences au Québec, ça se
énorme.
C'est énorme, là.
L'industrie milliardaire. Là.
Des résidences soleil.
Oui, mais ça fait rêver. Il y a un monsieur qui fait l'annonce, pour moi, il va y aller bientôt.
David, t'es incroyable, t'es incroyable. T'as gardé cette touche, c'est pour ça que tout le monde te dit, c'est vrai, tu sais, Mike Ward, Arnaud Soli, tu sais, des bigs là, dans l'industrie de l'humour, ils sont là, Danny. Ils riaient à chaque petite joke que tu faisais, t'es moi-même, je riais. Avec mon équipe invisible. Mais t'as gardé cette touche comme, en tout cas.
Moi, j'aime ça, avoir du fun, c'est tout simplement ça. Puis mon cerveau est en ébullition, fait que c'est sûr que ça donne des flamèches parfois. La semaine dernière, je suis allé faire le Fou du Roi pour le 500e de mon enfant qui va être diffusé.
Avec Ardisson,
Thierry Ardisson. Danny Laferrière était là. C'était super le fun.
Okay,
j'étais content. Ça s'est bien passé. J'ai eu du fun toute la soirée.
Okay.
Et ce que j'aimais, c'est que c'était l'ancienne formule qui est pas en direct. Et alors, dans le monde, tu peux tester des choses. Tenter des blagues qui peuvent être coupés aussi. C'est comme une espèce de protection, le montage. Maintenant que c'est en direct, je regarde ceux qui me remplacent.
Ils patinent en titi, là. C'est même pas évident pour l'animateur en soi, là.
La glace est mince.
La glace est mince. C'est peut-être une des raisons qui a fait que on va aborder la question très rapidement tout de suite. Que t'as quitté, tout le monde en parle, après quoi, 16 ans et demi, 17 années?
16 ans et demi. 16 ans et demi. Ben écoute, je t'avouerai que la période où je suis parti, c'était la pire période de la pandémie. Là. On était dans la période la plus anxiogène.
Tout dans le monde, pic là, de la pandémie.
Tous les sujets de l'émission étaient reliés à la pandémie. On ne parlait que de ça. C'était lourd. L'ambiance était lourde. Tout le monde était anxieux. Alors moi, je fallait que je fasse des blagues dans cette émission-là, en direct, le dimanche soir, sans public en studio. Tu sais, c'était comme le pire.
Il fallait que tu affrontes des trolls par la suite sur Internet.
Ça se transformait en séance de lynchage sur les médias sociaux pendant 4-5 jours. Fait que là, j'ai dit non. Ça m'a usé. Puis je me suis dit, si je quitte pas là, je vais peut-être finir par être malade. Alors j'ai quitté au bon moment.
Au bon moment,
j'ai pris la bonne décision.
Incroyable, écoute, 20 ans, puis comme on dit à Coconut, t'es le fou du roi émérite. Donc écoute, c'est le siège est encore à toi, quand ben, tu veux, tu
passes. Ils ont même gardé l'appellation fou du roi pour moi, parce que les autres, ce sont des co-animateurs invités.
Ah, bon, hein, écoute, hein,
voilà.
On donne à César ce qui revient à César. Danny Turcotte, est-ce que si t'appelles la question qui brûle à 100 000 piastres, si t'appelles Guilla, il répond-tu? Tu sais, êtes-vous en bon, super bon terme, moi?
On s'est vu la semaine dernière.
Ok. Sa fille, tu connais sa famille.
Ok. Toute sa famille, oui, c'est parrain de son fils.
Ok.
On est resté en bon contact. C'est sûr qu'on se voit moins parce qu'on travaille plus ensemble. Mais, non, y a pas de problème.
La petite séduction.
Ça a été toute une aventure.
Là, 12 ans. C'est malade.
Pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est une émission où on allait dans les villages. Et on célébrait une personne, s'est inspiré du film La Grande Séduction, où il y a, dans La Grande Séduction, il essayait d'avoir un médecin en le séduisant et montrant plein de choses de belles dans le village. On s'est inspiré de ça pour en faire une émission de télévision. Ça s'appelle La Petite Séduction et on a fait 260 localités en 12 ans, partout à travers le Canada.
Canada?
On a fait toutes les provinces canadiennes. On est allé jusqu'à Iqaluit, on est allé partout.
Mais en français, vous allez voir les communautés francophones. Les
communautés francophones partout au pays. Puis ça a été vraiment
enrichissant. C'est au Québec, ça?
Ouais, partout. Okay. Puis ça a été le fun. On a fait des communautés autochtones. On a fait vraiment le tour.
Et le précurseur d'un podcast qui s'appelle Coconut. On a fait près de 8000 kilomètres à travers la belle province, au Canada, les provinces des Maritimes.
Il y a des francophones partout au Canada. Puis les gens ne savent pas au Québec. On a l'impression qu'on est les seuls ici, mais il y en a partout. C'est toujours de belles communautés qui sont agréables à visiter. Parfois, tu te rends compte que le français s'en va.
S'en va.
Dans certaines communautés, c'est plus difficile, mais on peut pas les blâmer. Ils sont
aspergés. Le droit, c'est ça.
De l'anglais. Ouais. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça fait son travail. L'érosion du langage fait qu'il perd peu à peu le français, puis c'est l'anglais qui parle dessus.
Est-ce que tu es conscient?
Non.
Que tu as influencé moult Québécoises et Québécois, une panoplie, tout plein de gens, mais beaucoup de jeunes issus de la diversité culturelle, ethnoculturelle. Aujourd'hui, t'es plus une plancher des vaches un peu. Est-ce que t'en es conscient, là? Coconut te fait voir ça, là. Tout l'Est du Québec, de Montréal te suivait, même à l'époque, avec ta perruque, verveine. Juger avec ce personnage aujourd'hui, en es-tu conscient que tu as fait tout un travail chez les gens issus des communautés LGBTQ+, ou qui voulaient s'intéresser à la chose, et même chez les jeunes qui voulaient être animateurs? On t'écoute là-dessus, Danny Turcotte.
Moi, je pense que je pense que j'ai peut-être eu un impact, c'est au niveau de mon homosexualité complètement assumée à la télévision. À chaque semaine, je faisais des blagues là-dessus. Je banalisais le fait d'être gay. Je croisais des invités, comme les hétéros le font.
Mais Verben le faisait.
Verben le faisait aussi. Je pense qu'à ce niveau-là, j'ai peut-être aidé certaines personnes, puis je me le fais dire régulièrement. On m'écrit, il y a des parents qui me disent que ça les a aidés à cheminer avec leur fils, avec leur fille. Ça, ça me touche toujours à chaque fois, ça me rend heureux d'avoir au moins contribué à ça, d'avoir contribué à peut-être...
faire tomber certains...
Faire sortir, tomber des préjugés, des, sortir un peu des gens de leur placard intérieur, des gens qui se... C'est de l'ignorance en général quand les gens sont homophobes et tout, c'est juste qu'ils perdent, il y a des choses qu'ils comprennent pas, des choses auxquelles ils n'ont pas accès. Puis tranquillement, pas vite, en étant là chaque semaine, je pense que j'ai aidé à briser des rites.
Quand tu te permets d'inviter une de tes amies, c'est ça, moi je te dis, ton respect pour les aînés, il est incroyable. Jeannette Bertrand, écoute là, puis... T'as un échange avec elle, tu sais. J'étais sur l'écran, puis ça vous valait de l'or, là. Puis elle t'expliquait qu'elle était, ben, tu lui faisais rappeler qu'elle était dans les premières à offrir une plateforme aux consoeurs,
à la diversité
carrément. Oui. J'aimerais que tu nous reviennes en 15 secondes sur cet échange et surtout sur l'apport qui a été celui de Jeannette Bertrand.
Jeannette Bertrand, c'est un legs immense à la société.
C'est un monument.
C'est un monument vivant. Les pigeons la suivent.
Non, mais au parc La Fontaine.
Non, mais Jeannette a influencé tellement de gens, y compris moi. Quand j'étais jeune, je regardais ses émissions. Elle recevait des personnes trans. Elle recevait des personnes issues des communautés culturelles. Elle recevait des gens différents à sa table. C'était une émission où ils mangeaient puis ils jasaient. Ça s'appelait Parler pour parler.
Oui.
Avec un grand A aussi, où c'était des fictions.
Télé-Québec,
aussi. Oui, c'était toujours au niveau des gens différents. Puis Jeannette, là-dessus, là, elle a vraiment travaillé fort. C'est vraiment une personne importante. Elle a 98 ans aujourd'hui.
C'est malade!
Elle est toujours en pleine forme. Son cerveau est complètement présent. Quand on a fait notre entrevue pour mon documentaire, c'est elle qui me ramenait à l'ordre. Parce qu'elle se rappelait des choses que moi j'oubliais. Son, comme je dis dans le documentaire, sa chaîne débarque jamais.
Ouais, c'est ça.
Elle est toujours là, elle est toujours intense. Puis je l'adore. C'est une amie, je l'aime beaucoup. Moi.
Incroyable, Dani, le respect qu'on voit que tu accordes à ces mentors, comme tu aimes bien les appeler. Oui. Toi-même, on sent que tu es un mentor pour les Mike Ward, les Alain Joe, les Arnaud Soli. Hey, je me rends dans cette liste-là, tu sais. Ça, je trouve que c'est tout en ton honneur. 20 ans, 7 années à Tout le monde en parle. Une anecdote de Tout le monde en parle qui va rester gravé dans ta mémoire à tout jamais. On aimerait vite t'entendre là-dessus.
Ben, mon coming out, je me rappelle énormément. Là.
Parce qu'il y avait du monde qui se pointait à l'émission, puis des fois qui laissait sous-entendre.
Ben, on pointait là-dessus, là, comme pour un petit peu me fermer la gueule. On disait là, des blagues.
Mais certains se sont fait ramasser aussi.
Oui, des blagues à double sens pour comme me mettre un peu dans l'eau chaude. Fait que là, à un moment donné, j'ai décidé de faire un coming out et ça a tout changé dans ma vie. Maintenant, les gens, sur la rue, les gens me faisaient des
thumbs up partout. Okay, okay.
Fait que j'étais vraiment heureux. Je pense que les gens aiment la sincérité.
T'as été appuyé par M. Lepage, par Guillaume?
Oui, absolument. Ouais. Mais eux, ils n'avaient pas idée à quel point pour moi c'était important. Alors que, tu sais, eux autres, tu devrais avoir une
autre. La gang du plateau, on sait bien, ils sont
ouverts. Ouais, là, dans ton cœur, dans ton être, c'est quelque chose de gros. De le faire à la télévision devant tout le monde. Ma mère ne voulait même pas que je le fasse. Parce qu'elle avait peur que je me fasse humilier, que je sois malheureux, qu'on rit de moi. Elle avait raison.
Ouais, non, mais en même temps, on va toujours avoir du monde qui nous aime moins.
Ah ben oui.
Puis, du monde qui nous aime en titi.
Absolument.
T'es dans la fin quarantaine, mi-cinquantaine, on va le dire de même. Pour être cool. Pas d'enfant. On a reçu Jonathan Racine, lui-même issu des communautés LGBTQ+, qui a adopté avec son copain.
Ouais, maintenant, c'est de plus en plus...
Voilà, une jeune haïtienne, on est dans la diversité par à peu près. 50 ans, plus de 50 ans, Les autres, les haïtiens, on dit pas d'attente. C'est un projet qui serait possible. Il y a des messieurs qui ont des enfants biologiquement parlant.
Oui.
Tu peux donner ton sperme à une mère porteuse, tu sais, il y a d'autres...
Tout est possible, écoute-moi bien. Moi, quand j'étais en âge, mettons, d'avoir des enfants, d'avoir la patience d'élever des enfants, c'était pas possible pour les personnes gays d'avoir des enfants. Ça fait pas si longtemps que ça fait une dizaine d'années que ça s'est débloqué d'un peu partout. Il y a toutes sortes de façons d'y arriver, je trouve ça beau de voir un couple d'hommes, un couple de femmes avec des enfants. Je trouve ça parfait.
C'était criminalisé au Canada, tu sais, c'est ton reportage, nous l'apprend, ton documentaire. Jusqu'en 1977, le code criminel criminalisait le fait d'être homosexuel, LGBT.
Le chemin parcouru. Maintenant, on peut adopter, on peut avoir accès à des mères porteuses. Tout ça est maintenant possible. C'est magnifique, le chemin qui a été fait depuis 40 ans.
Adoption?
Et puis, non, mais moi, pour
les mascottes qui ont fait ça.
T'en veux pas?
Ben là, faut que tu règles tout ce que t'as comme moyen.
Non, mais l'affaire, c'est que moi, j'ai fait un X là-dessus très tôt, en sachant que c'était pas possible.
Là,
maintenant, j'aurais plus la patience maintenant. J'ai 58 ans, disons-là, le vrai âge. Mm-hmm. Alors, je me verrais difficilement briser mon silence du matin que j'aime ça. J'ai un vieux garçon.
Gambadant dans les forêts du Québec à l'aide de ses skis de fond.
Oui,
tu sais, ouais, c'est ça.
Je trouvais que l'enfant, ils vont passer vite à l'heure.
Dany Turcotte, on approche de la fin de l'entrevue. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, mais également nos aînés, parce que tu as fait tout un travail de démystifier certaines questions sociales auprès de la population québécoise. Aujourd'hui, on sent que toute ton œuvre, malgré que tu as d'autres projets qui s'en viennent pour les jeunes, mais tu as pris un moment, arrêt sur image, dire, il faudrait que je sensibilise les résidents des centres pour personnes âgées, on va dire de même. Est-ce que tu en es fier? Est-ce que tu pensais qu'il y allait avoir cette réceptivité?
Ben, je suis fier de ça, oui, parce que en fait, c'était le combat de mon ami Laurent McCartchan. Okay. C'est un peu lui qui m'avait orienté vers ça.
Okay.
Parce qu'il me disait que le dernier combat des personnes LGBT, des enfants au Québec, c'était au niveau des aînés. Il disait qu'il y avait vraiment un problème, qu'il frappait un mur quand il arrivait dans les institutions. Les personnes trans, il n'y en a pas tant que ça là, au Québec. Quand ils arrivent au niveau des services de santé, ben des fois, il y a des situations complètement embarrassantes aussi qui se produisent. Et aussi dans les résidences pour aînés. Imagine une résidence qui arrive, personne trans à la cafétéria, tout le monde regarde, tout le monde parle, tout le monde est un peu ignorant de cette réalité-là. Fait qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Puis j'ai essayé de le faire avec le documentaire. Puis je suis fier que ça a quand même eu des échos jusqu'aux hautes instances des résidences pour aînés.
Super.
Puis c'est peut-être pour préparer mon terrain aussi à moi plus tard.
Mais quand, t'as quand même une belle vue quand tu te réveilles le matin, d'après les recherches de Coconut. Tu regardes le Five Rose, t'es dans le vieux port. Oui, ouais, c'est ça. Quand même. Donc, écoute-moi.
J'ai fait une danse.
Oui.
Je suis chanceux, j'ai une très belle vue, j'ai un beau lever de soleil, j'ai une belle vie, je suis chanceux, j'ai des beaux contrats, j'ai eu des beaux contrats, j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 17 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours eu des contrats tout le temps. Je suis bien chanceux, malgré ma diversité.
Malgré ta diversité? Mais écoute, le Québec est quand même une terre assez ouverte,
absolument,
comparativement à d'autres endroits, sans les nommer, l'Ouganda, par exemple.
Ben oui, ben c'est une terre d'accueil ici,
ben
les personnes LGBT. Même les personnes qui arrivent de France, il y a beaucoup de Français qui viennent ici parce que...
Là-bas, ils sont...
Ben, c'est pas nécessairement rendu au même point qu'ici. Je dirais qu'ici, on est vraiment à l'avant-garde du monde entier par rapport aux droits des personnes LGBT. Puis on est un modèle, je dirais. Puis ça, c'est grâce à des gens comme Laurent McCutcheon.
Tu suis les pas de Laurent McCutcheon. Est-ce que... Tu sais, des fois, là, on a déjà vu Arnold Schwarzenegger, le gouverneur de la Californie, tu me vois venir. Dany Turcotte à la mairie de Montréal. C'est-tu quelque chose... Mais tu sais, le travail que tu fais aujourd'hui est tellement porté sur le social... On dit que vous étiez un repère de gauche, là, à tout le monde en parle.
Mais ça, c'est Stephen Harper qui
dit. C'est ça, Stephen, puis il y en a d'autres qui disaient
que c'était...
Donc, est-ce que... On attend Poilier pour voir. Est-ce que on risque, à un certain moment de la durée, de te voir en politique, Dany Turcotte?
On m'a approché souvent.
Okay.
On m'a téléphoné, on m'a sollicité.
Encore hier.
J'ai encore dit non. C'est pas quelque chose. Je dirais pas non à jamais.
OK.
Parce que c'est quand même un engagement qui est intéressant, je trouve, le monde politique. Mais, tu sais, j'ai quitté Tout le monde en parle parce que j'étais tanné de la critique et de la haine en ligne. Imagine-toi les élus, comment ils vivent ça. Chaque petit maire d'un peu partout vit avec cette
pression.
Il y a des gens qui sont hargneux et qui écrivent des choses épouvantables. Fait que peut-être que je voudrais pas revivre ça en étant politicien. Mais c'est un travail que j'admire beaucoup. Les gens qui le font, je trouve qu'ils font un beau travail. C'est pas évident. Souvent, ils sont... c'est très cruel. Les gens sont cruels avec ces gens-là, comme s'ils faisaient rien, alors que c'est des gens qui travaillent énormément.
Énormément!
Ils sont toujours...
Leur horaire, écoute... Ouais.
C'est du 15-16 heures par jour, 7 jours par semaine. Fait que je sais pas si j'aurais la force physique et mentale pour le faire.
Une question qui nous intéresse, là, on y va en rafale.
Ton équipe te parle dans les...
Ouais, c'est ça. Il reste pas beaucoup de temps. David doit partir, Donny doit partir. Très rapidement, tes premiers gags... Je me rappelle, avec ton seau, t'es tout crotté.
Ah oui, j'étais propriétaire de bloc appartement.
Ouais. Est-ce que tu pourrais, tu sais, comme, on te le demandera pas là, mais est-ce que tu te souviens encore de tous tes textes?
Non.
Que
non.
Une certaine blague.
J'ai délité ça.
Sérieux?
Tu sais que dans notre cerveau, il y a tant de place, c'est un disque dur. Fait à un moment donné, il faut absolument laisser de partir des choses pour arranger des nouvelles.
Y en a-tu des fois des gens qui te voient dans la rue puis qui te rappellent une vieille joke puis t'es comme, oh, moi, je l'avais
oui, fait. Oui, ça m'arrive. Des fois, ils passent des reprises à des émissions obscures un peu partout puis là, tout à coup, quelqu'un se met à me crier quoi puis je sais même pas de quoi tu parles. Là, c'est parce qu'il a vu un vieux sketch que j'avais fait en 1983 à Juste pour rire. Ça me fait toujours rire parce que je sais pas de quoi il parle.
Dès que tu prends le micro, on sent que tu as toujours eu un micro dans les mains. Aujourd'hui, tu es à la barre d'un podcast.
Oui.
Tu sais, qui risque de devenir aussi grand que tout le monde en parle. Tu sais, tu reçois les Louis-José Houd, entre autres, puis toute ta clique d'humoriste.
Pour l'enthousiasme, mais difficile à parler.
Fou des mots.
Oui.
C'est malade.
Ça, c'est l'office de la langue française qui cherchait quelqu'un pour animer ce podcast-là. En fait, ça s'appelle pas un podcast, ça s'appelle un balado.
Oui, mais
il est... Surtout que c'est l'office de la langue française, c'est l'autre qui appelle ça
un balado. Mais le podcast, est dans le dictionnaire.
Ah oui?
Je pense.
Mais en France, ils sont vite sur les anglicismes.
Ah ouais? Tu dis, j'ai un balado en France.
Ça pas c'est quoi?
Ça pas c'est quoi?
Non.
Ah non, t'as un podcast? Ah ouais, tu fais dans le podcast.
Mais eux, ils ont pas notre paranoïa sur la langue française. Ils se sentent pas menacés. Ouais,
exactement.
Alors, ils rendent des mots anglais, c'est correct. Mais si nous, on est très frileux, et on essaie d'inventer courriel au lieu de mail. C'est beau courriel.
Ouais, je pense.
C'est un beau mot.
Ouais, je crois que...
Souvent, on trouve des mots qui sont quand même intéressants, c'est comme ça. Balado. Ben, tu marches, tu écoutes ça.
Ouais, voilà, tu sais. Mais, pour ceux qui voudraient continuer à te suivre.
On peut écouter Fou des mots sur toutes les plateformes en ligne. Okay. Fou des mots, vous allez le trouver. Il y a 5 épisodes. C'est 5 personnes qui travaillent dans différents secteurs d'activité. Mm-hmm. Et on parle de l'importance de la langue française. On a les 2 animateurs du hockey qui parlent de l'importance du français dans le hockey. On a Looney qui est une cuisinière végane. Mm-hmm. On a une femme qui écrit, Michelle Allen, des séries télé, comment elle donne des mots dans la bouche de ses personnages. On a Louis-José Houd qui parle de l'humour. Donc ça a été fun à faire. On va probablement faire une suite bientôt.
OK. Puis le fait d'arriver sur un plateau de podcast un peu plus petit... comparativement à ton méga plateau.
C'est une belle liberté.
T'es content, hein,
d'être... On est toi, il n'y a pas de problème, on a des appareils qui nous filment, on a le son, c'est parfait, c'est pas lourd, on peut jaser tant qu'on veut, il n'y a pas de restriction de temps, il n'y a pas de pause syndicale.
T'es content de retrouver ta liberté.
Oui, absolument, absolument. Je fais des choses que j'aime petit à petit quand ça me tente, puis c'est parfait comme ça. J'aime beaucoup là les choix que j'ai faits. Puis l'écriture, pour moi, maintenant, c'est ça qui me marche.
Quelque chose, on termine là-dessus, puis on passe à tes remerciements. Danny Turcotte, plusieurs des gens qui nous viennent du Saguenay, Lac-Saint-Jean, et la Terrière, Chambord.
Je connais bien ça, t'es bon. Par chez vous,
mon ami. Le chocolat des pères trappistes.
Chambord.
Il y a beaucoup de gens qui connaissent Chambord. Ben là, Chambord, il y a des plages autour du lac.
Ben là, c'est
une belle place. Chez Goofy, tu connais ça?
Ben oui.
Tu connais ta région? OK. T'es venu à Montréal. Plusieurs qui viennent de ton coin de pays, quand ils arrivent à Montréal, ils essaient de changer leur accent un peu, prendre l'accent un peu plus neutre, montréalais. Tandis que toi, En tout cas, en faisant nos recherches encore, avec l'équipe, tu sais, constater que tes débuts sur scène, c'est même ton petit côté saguenéen, ton petit là-là-là, qui faisait en sorte que le tout Montréal partait à rire, puis tu l'as gardé au fil du temps. Il y a des trucs qui sont très de par chez vous. Des fois, tu bouffes un petit air, puis tu vas te dire, je suis comme, wow, il a pas fait ce que d'autres ont eu à
ben,
faire.
Ça se fait naturellement. Tu transformes un peu ton langage sans t'en rendre compte. Tu essaies de t'améliorer un peu, mais la petite couleur locale, ça fait toujours plaisir à entendre. Ça chatouille l'oreille. Les gens aiment ça. Comme on parle de diversité, c'en est une aussi. La diversité régionale. À Montréal, on devient différent parce qu'on vient d'une région, parce qu'on n'est pas nécessairement de la ville. En fait, Montréal, il n'y a pas grand monde qui vient de Montréal.
Non, c'est du monde qui arrive de
partout. Comme toutes les grandes villes du monde, c'est des gens qui viennent à l'ouvrir de
partout. L'urbanisation.
Et c'est ce qui donne la couleur à cette belle ville.
Dany Turcotte, écoute, toute une entrevue.
Merci.
Les 20 merci dernières... Le ting, hein? Oui. Merci à notre commanditaire, oui. Chef Paul, Le Camus. Ah. Écoute, un ancien chef du Toqué.
Ah
oui? Ah oui, bien. Si tu viens pas, on va t'inviter. Hein? Okay. Coconut, on...
Coconut, parle à ton équipe.
Ouais. Moi. tes remerciements. Y a bien des gens qui te suivent dans tes délires, tes nouveaux projets, tes idées originales. Hein? Le dernier placard. Si t'as des remerciements à faire, 38 ans de carrière, t'en restes encore beaucoup. Si t'avais des remerciements à faire du monde que des fois t'as peut-être oublié, là, tu sais.
Ben, ouais, écoute, c'est simple. Mes parents, bien sûr, qui m'ont donné des belles valeurs, qui étaient là quand j'étais enfant, qui sont en bas. Mon père est plus là, mais il est encore là dans ma tête. Ma mère qui est très drôle.
Les ma tante, les mononcles, les tatis, les
cousins. Toute ma famille, du Saguenay, mes racines, c'est sûr que c'est là que ça tout a commencé. C'est là que les bourgeons ont commencé à se former. Si tu me dis les gens vivants, mais Dominique Lévesque, c'est une personne importante pour moi. Je suis certain qu'il écoute le podcast, je le connais. Il est tellement curieux.
Il est tellement...
Mais il y a plein de gens que je peux remercier. Écoute, tous les gens qui étaient avec moi dans le groupe Sanguin au début, Émile Godreau, qui est maintenant cinéaste, c'est lui qui a fait Le Père en flic.
Ah, OK.
Qui a fait plein de choses. Ça a été mon premier amoureux de la vie.
Okay.
Donc, je vois encore aujourd'hui. Okay. C'est toujours mon ami.
Bon.
Marie-Lise Pilote, qui est avec moi dans le groupe, qui habite pas loin d'ici.
Sois-tu vieillir moi avec ton meilleur ami, tu sais, comme dans ton documentaire, tu sais.
Alors, tous ces gens-là qui étaient là au début, ben, c'est sûr que c'est eux qui m'ont formé. Et je te remercie, toi, de m'avoir invité. À Coconut Podcast, très agréable.
Franchement, Dany Turcotte.
Continue ton beau travail.
Oui, on lâche pas.
La diversité a besoin d'être entendue, d'être écoutée, d'être diffusée.
D'être diffusée.
Grâce à toi, ben, ça se fait.
Ça va faire des petits, puis ça va permettre à d'autres communautés culturelles de penser à cette question. Comment vont vieillir les membres de nos communautés? On va parler pour la communauté afro, issue du milieu LGBTQ+.
C'est une bonne question.
Très, très bonne question.
Très bonne question, parce que c'est pas évident non plus pour plusieurs communautés.
Exactement.
Imagine-toi que c'est pas évident quand t'es jeune, imagine-toi quand t'es vieux.
Ouais, c'est ça. Dany Turcotte, ton bonheur est contagieux. Même quand tu mets ton rire. Vraiment, merci beaucoup. Tu représentes cette sommité au Québec. Même Guilla, il nous a répondu, mais là, lui, avec tous les projets, avec sa... Un gars, une fille, ouais, ça, il a repris ça, puis t'es en tournage tout le temps. Donc, mais t'es là.
Je suis là.
Monsieur Legault, je peux me baisser. Dany, tu comptes. Dany, Coconut Podcast, on a fait le tour du Québec. On est allé à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Alors là, on va montrer comment on dit merci en différentes langues de nos frères et sœurs qui y habitent, que tu as été toi-même visiter. En langue algonquine, vers l'Abitibi, le coin de la mairesse Plante, ils nous disent Miigwech.
Miigwech.
Oui, tout à fait. Par la suite, dans le centre du Québec, au Danac, Victoriaville.
Oui,
qu'est-ce que tu connais pas au Québec, toi? En langue abénaki, ils nous disent « Oh, Léone!
Oh. »
Ensuite, on est allé vers nos frères et sœurs, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, Micmac. En langue Micmac, ils nous disent « Ouais, la ligne! » Excellent, mon ami. Oh. Ensuite, les Hurons-Wendat, capitale nationale.
Je me suis fait sauger par Max Gaulois.
On a fait sortir le méchant.
Ça a pris trois semaines.
Il t'a purifié ça. Oui, hein? Nice, excellent. Ils nous disent Téawek. Ensuite, nous autres, on a pris nos chiclats, tu sais, coconut, on se promène. Puis là, on est allé sur la côte nord. Washat Maliotenam. Les Inuits. En langue Inu, ils nous disent Chinash Kumitin.
Non, mes
arrière-grands-parents, c'est
Lac Saint-Jean de
Mastoyage. Quatre! Ok, ouais, mais Mastoyage par chez vous, oui! C'est magnifique comme
endroit. C'est un beau territoire.
Ouais, ça, c'est une belle commune.
Au Saguenay-Lac Saint-Jean, tu sais comment on dit ça? Merci.
Merci! Ben là, ça a l'air que t'as appris ça des Haïtiens. Parce que nous autres, on dit merci, merci, en pile d'Anitsoukot, ou c'est yon. Personnalité publique plus qu'incroyable, ou à travailler, ou à fighter pour communauté culturelle, pour communauté LGBTQ+, afro-LGBTQ+, d'aller tout côte, continuer de travailler, ou c'est un nègre solide, oui, et puis, ou qu'on d'année la furieur, hein, nous avons une image d'année là, franchement, merci en pile, mohawk yo, dans la région Montréal, yo di Niawa pour yo di merci. Niawa.
Niawa.
Bon bagay. Yes. Dani Tsoukot, mais nous sommes incroyables. Nous remons en pile. On t'aime. Le merci. Québec t'aime. Vraiment, lâche pas ton bon travail, mon gars.
Merci beaucoup.
Respect. Boum. Boum. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec, je peux le dire, cette légende vivante. Écoutez, que Coconut Podcast ait reçu Dani Tsoukot, je peux vous dire que c'est pas loin d'une consécration. On continue le dur labeur. Ça ne fait que commencer. Là, on va s'atteler pour aller rencontrer sa maman, serait pas pire. Sur Zoom, une entrevue. Comment il était à l'école, votre fils, madame? Là.
Donc, sa mémoire commence
à... On est bien content d'avoir reçu Dani Tsoukot. Messieurs, dames, on vous invite à nous suivre sur les ondes de Coconut Podcast. On se revoit pour une prochaine entrevue. Comme j'aime bien vous dire à l'accoutumée, merci, Niawan, au revoir!
Ciao, ciao!
Olé, olé, olé!